Bonjour, Jocelyn Perret.
Bonjour Eric.
Tu es, on va dire, passionné de l'histoire des médias, auteur d'un ouvrage sur l'histoire de Radio Verte Fessenheim, dans le contexte de l'Alsace militante des années 70. Donc ce qu'on va te demander, alors qu'on est ici à Altkirch, pas très loin finalement de ce site, pas très loin aussi du secteur de Dreieckland, on va préciser ces termes-là, pour des non-alsaciens. Pourquoi un intérêt particulier sur Radio Verte Fessenheim?
Alors je vais essayer de la faire court. En 2014, je travaille à Colmar pour la radio associative locale RDL, Radio Dreieckland Libre. Mon parcours, auparavant, j'ai travaillé 10 ans pour le réseau Sortir du Nucléaire au niveau national. Donc j'arrive, je fais de la radio qui était une passion que j'avais lâchée depuis quelques années. Et je me retrouve à RDL et là je fais le lien entre RDL et Radio Verte Fessenheim qui avait été créée le 4 juin 77 en Alsace. Et ben je me retrouve moi fin 2014 en me disant ah mais tiens, Radio Verte Fessenheim salit mon passif entre guillemets salarié anti-nucléaire et le monde de la radio. Et donc 2017 qui approche, je me dis on arrive aux 40 ans et donc je m'intéresse justement à la création de Radio Verte Fessenheim.
Alors, on est en 77. Rappelez que la loi qui autorise les radios, c'est 81. Donc, on est bien à l'époque des radios pirates.
C'est exactement ça. C'est ce qu'on a appelé en France là le printemps des radios pirates, justement ce printemps 1977, avec certains coups de bluff comme ce à France 2, donc sur Radio Verte Paris, mais également toute une dynamique.
Brice Lalonde.
Avec Brice Lalonde, ouais. Et donc, mais également toute une dynamique qui a pris au niveau national avec la création d'énormément de radios pirates. On avait tout. Hein, on avait des radios musicales, des radios bruitistes, des radios un peu dans tous les sens, mais on avait également des radios d'information, des radios de contre-information. Et il y a eu également plusieurs, justement, radios vertes, militantes, un peu de partout, parce que c'était aussi une époque où il y avait énormément de luttes contre le nucléaire, le projet gigantesque de réacteurs en France.
Et si je me trompe pas, c'était aussi la grande époque des courants régionalistes, d'identité culturelle, côté basque, breton, occitan, et l'Alsace aussi.
Ah mais l'Alsace à fond. L'Alsace, il y a eu deux ou trois auteurs chansonniers qui ont porté un peu ce développement, entre autres Roger Siffert, hein, qui maintenant est à Strasbourg et qui vient d'une vallée pas loin de Célestat. On avait également François Brumt, ils se connaissaient, ils ont appris la musique ensemble et c'était un peu les bards alsaciens. Donc ils ont remis au goût du jour la chanson alsacienne, la tradition de la chanson alsacienne, en reprenant des textes, mais également en créant des nouveaux textes et nouvelles musiques. Et c'est vrai que ça a pris. Il y avait cet engouement, mais qui était énormément porté justement par une jeunesse qui était issue un peu aussi des mouvements de mai 68 et qui donc avait besoin de se réapproprier certaines choses, de retrouver peut-être des valeurs, de s'exprimer. Et ça a porté un peu tous ces mouvements de lutte également, souvent de protection de l'environnement, puisqu'il y avait énormément de méga projets sur ces années 70.
Parmi les méga-projets, il y avait le canal, le grand canal, et puis il y avait évidemment les centrales nucléaires. Alors Fessenheim, qu'est-ce qui se passe donc dans ces années-là autour de Fessenheim?
Alors Fessenheim et la lutte anti-nucléaire, fin des années 60, début 70, en fin de compte, on apprend qu'il y a un projet de 200 réacteurs qui sont prévus, c'est un projet, donc en France. Et en août 70, est créé en Alsace le CSFR, le comité de sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin, qui peut être considéré comme la première association de lutte contre un projet nucléaire civil, et qui très rapidement organise des manifestations. Début des années 70, c'est aussi la grosse manif au Bugey, organisée par Fourier avec Charlie Hebdo. Et donc la lutte anti-nucléaire prend énormément de place. Il y a d'autres luttes autour, contre un canal également le long de la Loire. Il y a énormément de projets, le canal à grand gabarit. Il y a énormément de projets d'autoroutes, énormément d'usines chimiques. On se retrouve en 74 en Alsace à Markolsheim avec un projet d'usine chimique qui devait rejeter du plomb dans l'atmosphère. Et on se retrouve face à la première ZAD, la première zone à défendre, la première première occupation de terrain militante, entre guillemets, en 74 à Markolsheim, une lutte victorieuse qui a été reprise par la suite. Et on arrive comme ça petit à petit en 77 avec le chantier des réacteurs de Fessenheim qui est en cours. En 77, déjà un des deux réacteurs a divergé, c'est-à-dire a déjà démarré, et le deuxième, fin juin, doit diverger. Et on se retrouve à ce moment-là aussi avec des occupations de terrain en Alsace, à Gapstein et à Eiteren. Et le 4 juin 77, 4 personnes issues du Sungo, donc à côté d'Alkirch où on se trouve, décident de créer Radio Verte Fessenheim. Elles ont récupéré un émetteur qui venait d'Italie, où la libéralisation...
Comme beaucoup de radios à l'époque.
La libéralisation, l'ouverture s'était faite un an avant, je crois, 76, si je me trompe pas. Et du coup, il y avait eu un émetteur qui avait transité, qui était arrivé par l'Italie, qui était passé à Grenoble sur la lutte contre Super Phoenix. Et donc, il y avait eu radio, comment il l'avait appelé, radio, je sais plus le nom de la radio, radioactive, je crois, tout simplement. Et cet émetteur italien, en passant par un groupe non violent, je sais plus lequel, est arrivé en Alsace dans les mains de Serge Bischoff. Et qui, technicien, et amateur, curieux, a décidé avec trois amis de lancer une radio pirate. Donc le 4 juin 77, première émission de Radio Verte Fessenheim.
Alors qui étaient justement ces militants qui ont porté en fait ce projet et sa mise en œuvre?
Alors ceux qui sont à l'initiative, justement Serge Bischoff est encore étudiant, donc il deviendra chimiste par la suite. Sa compagne de l'époque, Elisabeth Schultes, habite encore pas loin du lieu historique de Radio Verte Fessenheim. Elle était étudiante, elle deviendra journaliste. Elle a publié un ou deux livres, dont un sur Solange Fernex, aussi une icône de la lutte féministe antinucléaire en Alsace. Donc ces deux personnes-là étaient en couple. Il y avait un autre couple, Michel et j'ai perdu le deuxième prénom, qui étaient eux plus du côté de... Ils allaient devenir agriculteurs, élever des moutons, travailler la laine, faire de couvertures, des habits en laine. Et donc voyant que les médias, c'était quoi en Alsace à ce moment-là? C'était principalement trois médias papier, l'Alsace, les DNA, le Nouvel Alsacien, et puis après la radio, RTF, c'était le monopole de l'État. Voyant que il y avait déjà une presse papier en Alsace, on avait le Klapperstein à Mulhouse, Symfolique à Strasbourg, il y avait déjà une presse d'opinion, pas quotidienne, mais il y avait déjà cette presse-là. Eux, ils ont décidé d'investir les ondes et donc de créer cette radio pour justement essayer de toucher d'autres personnes via un autre média qui là serait les ondes, puisque la plupart des foyers étaient équipés d'un récepteur, d'un poste.
Alors évidemment, les pouvoirs publics, étant donné les gros enjeux de développement économique, tel qu'il est vu par le pouvoir à l'époque, sont d'une énorme importance. Je suppose que du côté des opposants qui devaient s'organiser pour mettre sur pied cette radio et la faire vivre, il a fallu prendre vraiment des mesures d'organisation, de sécurité particulière, parce qu'ils devaient être particulièrement encore plus pistés peut-être que d'autres radios qui se développaient sur d'autres modes dans d'autres lieux.
Ils ont été énormément pistés, poursuivis par la gendarmerie, la trigonométrie, essayer de repérer où était l'émetteur pour retomber sur les pirates. Donc il y a eu quelques folles courses comme ça dans la montagne, dont du côté allemand aussi, où il y avait des hélicoptères, et puis la gendarmerie qui avait encerclé la montagne et qui montait, et où les pirates ont réussi à se camoufler derrière un buisson, puis après à se faire héberger dans une ferme pas loin et à attendre. Et donc ils étaient en effet recherchés sur chaque diffusion. C'est pour ça que régulièrement, quand même, ils changeaient aussi de lieu de diffusion. Savoir que l'Alsace s'est orientée sud-nord, c'est presque une ligne droite. Et sur le côté ouest, il y a les Vosges. Donc avec énormément de points de vue, énormément de points hauts, ça fait que ça peut permettre une diversité de points de diffusion. Et très rapidement, il y a eu une douzaine d'équipes de radio pirates qui, tous les vendredis soirs, se retrouvaient sur un point haut comme ça et à 19h45 et diffuser une cassette qui, elle, avait été enregistrée dans le Sungo, justement par les quatre fondateurs et puis petit à petit par d'autres. Et donc, il y avait le secret de où se trouvait le studio. Et après, c'était ces cassettes qui étaient acheminées aux différents groupes. Donc, on a droit à plein d'anecdotes, à une cassette qui était cachée dans un soutien-gorge. Il y a toujours du grivois, il en faut. Hein. Et donc, il y a plein d'anecdotes autour de tout ça. Et c'est vrai que le risque, c'était de se faire pincer. Donc, des fois, ils arrivaient, ils montaient à pied. Hein, ils montaient, un sac à dos, une batterie de voiture ou de moto, un lecteur cassette, la cassette, l'émetteur, l'antenne, et ils posaient ça sur le point de vue, ils appuyaient sur lecture, et puis ils partaient, et ils attendaient la fin de l'émission pour revenir chercher le matériel, parce que si jamais les gendarmes réussissaient à trouver le lieu d'émission, au moins il y avait personne.
Ce qu'il faut que l'auditrice et l'auditeur se mettent bien en tête, c'est que justement, vous, comme tu viens de l'expliquer, l'image qu'on a en général des radios pirates à cette époque, c'est plutôt des radios qui sont en ville, qui posent des émetteurs sur des toits d'immeubles, de tours, et qui se déplacent pratiquement de toit en toit. Là, on est sur la volonté de couvrir une vaste zone, et donc on profite du relief. Du fait qu'il y a la forêt, et donc c'est pas depuis la ville que ça émet, c'est ça quand même que la grosse particularité, et ça permet de couvrir quelle zone?
Quasi toute l'Alsace du nord au sud, donc il doit y avoir pas loin de 400 entre 300 kilomètres peut-être, je pense. Je suis pas alsacien, donc des fois j'ai du mal à estimer.
On va dire peut-être 200 kilomètres, ouais.
200 kilomètres, quelque chose comme ça. Mais c'est la diversité, ces 12 équipes faisaient que ça partait du Sungo, le sud, qui avait des équipes Vallée de Masvaux, qui avait une équipe un peu plus haut, qui en avait une du côté de Colmar, une du côté de Célesta, et ainsi de suite. Et donc ça couvrait, on va dire, la quasi l'entièreté de la région, et puisque c'est diffusé plein est, que là il n'y a pas d'obstacle à la diffusion, ça pouvait aller loin, mais voilà, selon les émetteurs, la puissance, la qualité, le brouillage ou pas, c'était plus ou moins évident d'écouter Radio Verte Fessenheim.
Donc la ligne éditoriale, on suppose, elle est très simple à l'époque, c'est une radio militante, donc elle a des objectifs très précis. Est-ce qu'on peut quand même les rappeler, voire les détailler?
Son premier objectif, de toute manière, c'est de ne pas voir démarrer la centrale nucléaire de Fessenheim. Donc toute son attention sur les premières émissions est vraiment focalisée sur la lutte contre Fessenheim, le soutien aux deux occupations de terrain. Donc une occupation, c'est un pylône de la future ligne qui doit justement évacuer l'électricité vers Paris. Un pylône qui n'avait pas été monté, donc il est occupé pendant un certain temps avant d'être délogé par la force assez rapidement. Et il y a un autre site qui est également occupé, où là il y a une station météo. Ça veut dire que c'est les premiers tests, on va dire, pour voir s'il est possible de construire une centrale là. Donc là, ce site est occupé, et c'est sur ce site justement que sont faites les émissions, enfin du moins les interviews, les rencontres, et qui seront montées plus tard. Donc pendant encore, on va dire, juin, juillet, les émissions sont focalisées sur Fessenheim. Après, les deux réacteurs ont démarré. Donc on continue à dénoncer le nucléaire civil. Il y a la problématique des lignes haute tension, des transformateurs, enfin il y a encore beaucoup, beaucoup de choses. Mais petit à petit, Radio Verte Fessenheim, justement, sensibilisé à d'autres questions, s'intéresse à d'autres luttes. On les retrouve sur des grèves à Célesta, à la filature par exemple, en soutien aux ouvriers, et donc elle aura amené une radio, hein, la radio de lutte. On retrouve aussi Radio Verte Fessenheim à Longwy. On connaît beaucoup Lorraine Cœur d'Acier à Longwy, mais juste avant Lorraine Cœur d'Acier, il y a eu SOS Emploi, qui elle a été montée par la CFDT, la section locale de la CFDT, qui était un peu en guerre avec le national, mais c'est une anecdote. Et donc localement, ils ont eu le soutien de Radio Verte Fessenheim, qui est venu les former à la radio. Et ces militants de la CFDT de Longwy ont monté Radio SOS Emploi. C'est eux qui ont monté les grandes lettres lumineuses en haut d'un crassier. Ils ont également kidnappé Johnny Hallyday. Ils ont volé la Coupe du Monde de foot, enfin la Coupe de France de foot. Enfin, ils étaient complètement hallucinants, très actifs. Je signale d'ailleurs, on a un livre, je me souviens plus du titre, mais il y a un livre qui vient de sortir aux éditions du Faubourg à Nancy, où il y a un bon paragraphe sur justement SOS Emploi. Donc on voit Radio Verte Fessenheim aller jusqu'à Longwy, on retrouve Radio Verte Fessenheim sur Belfort, on retrouve de un peu plus loin, un peu plus distant, mais on en parlait juste avant, sur Lippe, donc les grandes grèves, les occupations, et puis en effet on fabrique, on paye, on se vend. On retrouve Radio Verte Fessenheim sur la transmission. Donc il y a également toute cette participation sur la diffusion autant des outils que de la pratique.
On fabrique, on vend, on se paie, pas l'inverse.
J'ai une petite correction.
Ça bien fait.
C'est dans l'enthousiasme de l'expression.
Donc on est en pleine période où il y a un mouvement antinucléaire très très puissant, hein, finalement. Est-ce qu'il y a eu d'autres sur d'autres territoires d'autres tentatives d'intervention militante par le biais de la radio sur ce terrain du nucléaire?
Oui, on retrouve Radio Golfech. Voilà, Golfech, donc sud de Bordeaux, nord de Toulouse, hein, par là-bas. Il y a eu également une tentative sur Nantes, mais qui a pas perduré. Elle était pas forcément liée à une lutte précise, même s'il y avait des projets pas loin. Il y a eu quelques émissions à Plogoff, la lutte aussi, donc la victorieuse. On retrouve des émetteurs sur des événements antinucléaires, donc comme les grosses mobilisations contre Superphénix. Mais après, en termes de régularité et de durée dans le temps, il y en a aucune autre. À Nancy, il y en avait également une, Radio Verte, mais il y a eu peut-être 6-7 émissions. C'était moins organisé, c'était un peu brouillon, mais voilà, Radio Verte Fessenheim, si elle est restée aussi là un peu dans les mémoires, c'est justement parce qu'elle a été parmi ces premières radios pirates, hein, si on met de côté Radio Campus, mais un peu cette première radio
à Lille, hein,
oui. À Lille, ouais, et avec en même temps, ben, très rapidement une très grosse organisation, une grande structure, énormément de militants, énormément de soutien, une régularité. Le fait aussi, on parlait tout à l'heure du régionalisme, les émissions étaient en trois langues, il y avait du français, de l'alsacien et de l'allemand, pour justement correspondre au bassin rhénan.
Alors en gros, il y avait à peu près combien de personnes qui étaient mobilisées sur l'Alsace pour faire tourner techniquement cette radio, voire la déplacer, et fabriquer du programme, du message, de l'information?
Il y avait pas loin de 80 à 100 personnes actives. Parce que justement, il y avait les personnes qui étaient au studio, puis après dans chaque équipe, il y avait dans chaque équipe, après ça bougeait un petit peu. On retrouve beaucoup de personnes qui étaient d'une manière dans toutes les luttes du moment. Donc il y a eu un engouement, et ça a été porté et tenu. Et c'est sur cet engouement, sur cette régularité, que c'est ce qui a fait aussi la force de la radio. Et qui s'est engouffré également dans la lutte pour la fin du monopole, donc où on voit Serge Bischoff, donc qui rencontre des gens de différents partis, qui fait partie des différentes structures collectives qui se mettent en place à l'époque, l'ALO, je crois, enfin. Voilà. Et donc on les voit également moteurs de cette dynamique-là, et ils sont restés moteurs jusqu'à ce qu'il y ait l'ouverture des ondes, et où là ils ont tenté de devenir la radio régionale alsacienne, sauf qu'ils se sont fait un peu couper l'herbe sous le pied, on va dire.
Alors on a en tête, en tout cas les passionnés de la radio ont en tête l'intervention brutale qu'il y avait eu par exemple à Radio Lorraine Cœur d'Acier, où des quarts de CRS étaient intervenus par centaines, hein, donc sur le site. Est-ce qu'on a eu ce même type d'intervention des forces de l'ordre importantes par rapport aux actions de Radio Verte Fessenheim?
Non, il y a eu une fois une perquisition, il me semble, au studio, et avec inculpation. Mais en fin de compte, l'équipe de Radio Verte Fessenheim a été libérée, innocente, tout simplement parce que vous pouvez avoir du matériel technique à la maison. Et les gendarmes, la police, les enquêteurs n'avaient pas trouvé d'émetteur. Donc sans émetteur, vous ne pouvez pas faire de radio. Donc ils ont été relaxés. Après, je pense que non, les gros moyens ont été mis sur certaines cibles. Lorraine Cœur d'Acier, parce que c'est une grosse lutte ouvrière. Et en même temps, s'il y a pu y avoir l'envoi d'autant de policiers et autant de peu de réactions localement, c'est qu'aussi il y avait eu un schisme entre le PC, la CGT nationale et la radio, donc il y avait eu un abandon un peu du projet radio, et localement du coup ça s'était aussi ressenti, les ouvriers ouvrières ne se retrouvaient pas dans le nouveau projet, ça fait qu'il n'y avait plus la dynamique, quand c'est le grand moment de Lorraine Cœur d'Acier, jamais les flics n'auraient osé venir saisir l'émetteur, tandis que là voilà, il y a eu un couac. Et après il y a eu d'autres actions comme ça, on peut penser à Radio Riposte, le PS,
mais le procès Mitterrand,
bon, mais là c'était un bel objet de com pour le PS et Mitterrand, entre 80 et 83, le temps que tout se pose sur l'attribution des fréquences, il y a eu des perquisitions, donc Carbone 14 par exemple, et donc il y a eu des perquisitions de manière assez brutale, assez violente, jusqu'à ce que en gros les fréquences soient attribuées.
Venons justement à cette période. Donc on est en 81. Les radios dites pirates vont pouvoir devenir des radios libres autorisées. Bon, pour les créateurs, l'équipe qui était à la base de Radio Verte Fessenheim, ça se passe comment, ce fait de pouvoir entrer dans la légalité? Est-ce que c'est simple ou est-ce que c'est compliqué? Ou est-ce que ça réunit ou est-ce que ça divise les gens?
Alors, est-ce que ça réunit ou est-ce que ça divise? Je pense que là, ça réunit encore parce que c'est une sorte de victoire qui leur est offerte là depuis 4 ans de lutte, de pirates, de confrontation. Et donc, c'est une victoire. Donc, tout le monde est content. Là où tout le monde déchante, c'est que pour se voir attribuer une fréquence, entre guillemets, il y a un cahier des charges auquel il faut répondre. Que ce soit le nombre d'heures de diffusion par jour, que ce soit la technique, que ce soit, il y a plein de choses comme ça qui du coup font que vous pouvez plus vous amuser avec un émetteur construit à la maison, il vous faut investir, qu'il vous faut des animateurs, qu'il vous faut vraiment un engagement parce que ça devient du quotidien, qu'il vous faut un local là où avant vous retrouviez chez les copains, vous faisiez l'émission et puis après chacun partait avec sa valise, son sac à dos et aller là-bas. Donc ça demande une structuration, donc qui n'était pas forcément possible pour tout le monde. Et après, ben là où ça, l'espoir qu'avait Radio Verte Fessenheim, qui entre-temps était devenu Radio Dreieckland.
Que veut dire Dreieckland pour qu'on comprenne bien?
Dreieckland, c'est un terme qui a été forgé justement par un chanteur de folk dont on parlait tout à l'heure, François Broom, dans les années 70, donc, et qui a écrit une chanson. Le terme, normalement, c'est Dreieckland Eck, donc c'est le pays des trois frontières. Et il a joué avec ce mot, donc de Dreieckland Eck, c'est passé à Dreieckland. Et ce terme permettait de regrouper le bassin rhénan, le bassin culturel dans la région. C'est pas l'Alsace toute seule, c'est l'Alsace dans le bassin rhénan, c'est-à-dire le sud de l'Allemagne et le nord de la Suisse. On retrouve une culture commune, on retrouve un dialecte commun. Et donc le Dreieckland, à ce moment-là, était très important pour ces militants, ces jeunes militants, qui eux avaient fait la réunification franco-allemano-suisse. Et donc se retrouver et voulait porter ça, on retrouvait le mouvement folk militant des trois côtés de la frontière dans les trois pays, des passes, des gens qui venaient, qui soutenaient. Et donc ce terme Dreieckland à ce moment-là représentait vraiment cette union des militants régionales rhénanes. Et donc Radio Verte Fessenheim, quand elle a voulu s'ouvrir sur d'autres thématiques que le nucléaire, a décidé de s'appeler Radio Dreieckland Libre pour correspondre justement à cette zone géographique.
Donc à ce moment-là, le siège il était où? Il est côté français, côté allemand?
Il est tout le temps resté côté français. Il y a une radio Dreieckland à Fribourg qui existe encore, mais elle arrive plus tard. L'histoire du mouvement des radios pirates en Allemagne est plus compliquée. Ça correspond pas à la même époque. Donc Radio Verte Fessenheim reste en Alsace. Au départ, le seul lieu connu, c'est l'adresse de l'association des amis de Radio Verte Fessenheim qui permettait d'avoir une fenêtre légale, parce que les pirates étaient pirates, tandis que l'association, elle, était légale et donc pouvait permettre de faire la promotion, de défendre l'ouverture des ondes, des fois de récupérer des dons, aussi des choses comme ça, pour imprimer. Et donc, c'était la seule adresse. Il a vraiment fallu attendre que ça devienne légal, qu'il soit autorisé. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, au début 81, Radio Verte Fessenheim, vu qu'elle couvrait déjà l'Alsace, espérait qu'il y ait un statut qui lui permette d'être la radio alsacienne avec un émetteur puissant qui permettrait de couvrir l'Alsace. Et non, le statut des radios libres qui a été créé limite justement la puissance des émetteurs et la zone couverte. Donc début fin de 80-83, Radio Dreieckland se retrouve à devoir créer 5 antennes en Alsace pour être présente sur l'ensemble du territoire.
5 antennes, c'est-à-dire 5 entités, 5 radios différentes.
5 entités, 5 radios, 5 bureaux, 5 fois le matériel, du personnel.
Et des projets différents ?
Des projets différents, oui, il y avait des émissions communes, mais il fallait vraiment avoir créé les 5 entités. Donc là, il y a également justement, il y a des ressources financières à sortir, c'est un peu plus compliqué. Et ça, cette volonté-là, c'est parce que Mitterrand a ouvert les ondes, mais il voulait quand même garder la main, on va dire, sur les diffusions, je pense, régionales. Et donc ça a été ce qu'il a confié à Radio France. Radio France dans les différentes régions qui a vidé des fois de sa substance un peu certaines radios pirates en s'accaparant un peu des fois des approches régionalistes qui avaient bien plu. Mais voilà, et du coup, c'est ce qui a été très compliqué pour Radio Dreieckland Libre ce début des années 80, c'était de pouvoir gérer 5 antennes. Et donc on se retrouve très rapidement avec le Sungo donc au sud et Haguenau au nord où là c'est trop faible, donc ces deux antennes ferment, ils arrêtent. Et après on a trois antennes principales, Mulhouse, Colmar et une qui est sur plutôt du côté de Strasbourg.
Ça c'est la situation aujourd'hui aussi.
Alors oui, ces fréquences existent encore. Les noms ont un peu changé, elles n'ont pas toutes la même histoire. Sur Mulhouse et Strasbourg, fin des années 90, des problèmes financiers ont fait que le groupe Europe 2 a récupéré les associations, donc les fréquences. Donc ces fréquences ont gardé le nom de Radio Dreieckland jusqu'à il y a 2-3 ans où maintenant c'est DKL. Et ça reste de la radio régionaliste, mais pour nous pas d'un grand intérêt, du moins avec vraiment aucun lien avec ce qu'était Radio Verte Fessenheim ou
Radio Commercial, on peut dire.
Radio Commercial, on peut dire. Et il reste l'antenne de Colmar, donc RDL, Radio Dreieckland Libre, qui elle conserve ses statuts associatifs, n'est pas commerciale, ne fait pas de publicité et donc offre une ouverture culturelle, musicale et de rencontres beaucoup plus diverses, beaucoup plus de proximité.
Alors Jocelyn Perret, tu avais quel âge en 77?
Voilà, moi je suis né fin 68, donc printemps 77, j'avais pas encore 9 ans.
Ce qui veut donc dire que le regard que tu as eu sur cette histoire a été finalement le regard d'un historien. Il t'a fallu faire des recherches, il t'a fallu rencontrer des gens. Comment tu as travaillé pour écrire cette histoire de Radio Verte Fessenheim?
Je suis tombé dans un gouffre sans fin parce que quand j'ai d'abord pris quelques contacts, donc j'ai réussi très rapidement à retrouver Elisabeth Schultes, une des fondatrices, et puis petit à petit j'ai eu d'autres contacts. Comme j'étais déjà dans les réseaux un petit peu associatifs militants, je connaissais des gens, donc j'ai pu faire une vingtaine d'interviews, le président de l'association des Amis de Verte, des Amis de Radio Verte Fessenheim, certains des émetteurs, et donc j'ai collecté des infos. J'ai retrouvé des articles, j'ai retrouvé des enregistrements, j'ai retrouvé plein de documents.
Les archives existent toujours, y compris les archives sonores ?
Oui, elles sont hébergées sur un site en Allemagne qui a numérisé tout ce qu'ils avaient retrouvé.
Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui encore consulter sur Internet ou alors c'est uniquement entreposé ?
Non, c'est numérique, c'est sur Internet, c'est sur accès libre. Oui. Là, j'ai plus le nom en tête.
Mais c'est possible, si on recherche, on doit trouver.
On peut retrouver. Après, moi, je me suis retrouvé face à un questionnement, c'était que Radio Verte Fessenheim, première émission 4 juin 77, et tout de suite une grosse dynamique derrière. Ça fait que j'ai fait aussi un gros travail en amont pour essayer de comprendre quelle avait été l'évolution, la conjoncture, l'histoire pour que ça démarre aussi rapidement. Et donc j'ai fait pas mal de recherches, d'interviews et de recherches d'archives sur en gros l'émergence des mouvements écolos, militants, donc les occupations de terrain, les luttes anti-nucléaires, la lutte contre le projet de canal à grand gabarit. Il y avait également un mini Larzac qui était projeté au-dessus de la vallée de Masvaux, des projets de mines d'uranium sur 2 ou 3 sites en Alsace. Et donc voilà, j'ai suivi cette dynamique-là pour ce projet de livre. Et jusqu'à la création de Radio Verte Fessenheim, je retrace ces mouvements. Et à partir de l'émergence de Radio Verte Fessenheim, je parle uniquement de Radio Verte Fessenheim, mais des émissions de Radio Verte Fessenheim qui, elles, justement, ben, continuent à relayer les différentes luttes, les différents mouvements qu'on avait alors en Alsace.
Alors, est-ce qu'on peut encore se procurer ce bouquin ?
Non. Celui-là, il est épuisé. Là, il doit m'en rester.
C'était quoi le titre ?
C'était l'épopée alsacienne du Dreieckland, et donc l'émergence des mouvements citoyens dans les années 70 en Alsace.
On peut peut-être le retrouver des fois du côté des livres d'occasion, peut-être ?
C'est peut-être possible qu'il y en ait deux ou trois, parce qu'on en avait fait un peu, ouais, je crois, 500 exemplaires. Donc, il ne doit pas en rester beaucoup. Après, je projette, parce que on est bientôt en 2027. Et depuis 2017 et la parution de ce livre, j'ai récolté d'autres archives. J'ai rencontré une ou deux autres personnes qui avaient des choses intéressantes à dire à propos de Radio Verte Fessenheim et un ou deux autres liens sur les radios pirates. Donc là, je vais essayer de trouver le temps pour l'actualiser pour les 50 ans de Radio Verte Fessenheim.
Eh bien voilà, merci Jocelyn Perret pour ces informations. Donc concernant Radio Verte Fessenheim, sur lequel vous avez travaillé pour pouvoir écrire et communiquer cette connaissance. Et puis se renvoie à la recherche d'archives, parce que je pense que ça peut intéresser, même si tout n'est pas forcément en français, si j'ai bien compris. Ça peut parfois être intéressant d'aller écouter des extraits d'émissions de cette radio des années 70. Merci Jocelyn Perret.
Merci Eric, à bientôt.